Quand je suis en train de préparer le balado d'aujourd'hui, vendredi passé, puis comme puis on va le voir dans le deuxième bloc avec Mine, on va parler de faire le lien là, entre les femmes et l'économie. Puis vendredi, c'était la journée internationale du droit des femmes, Puis j'avais des discussions avec mes trois filles, puis j'étais en train de préparer, faire les lectures, puis tout ça, puis je leur parle, puis je tombe sur... l'affaire Andrew Tate, l'espèce de masculiniste désormais célèbre. Puis là, je leur ai dit, vous autres, dans votre TikTok, plateforme, médias sociaux, est-ce que vous voyez ça? C'est, parce qu'on dit que c'est très, très populaire, notamment chez les jeunes hommes. C'est des filles, mais ils me disaient, ben, nous autres, des fois, on voit passer ça, mais on clique jamais là-dessus parce que ça va se retrouver dans notre algorithme puis dans notre fil, tu sais. Mais ça m'a fait penser, puis tantôt, justement, on parlera de... la réalité des femmes au Québec, puis versus l'économie, puis tout ça. Puis on parlait de finances publiques, puis je me disais, waouh, c'était écœurant qu'en 2024, on parle de ça. Puis, puis dans ma préparation, je me disais que j'allais être avec vous autres, on allait être trois gars. Ben, que je trouvais ça intéressant de se dire que, waouh, après tout le chemin parcouru, qu'on soit encore à 2024, puis encore pire. Parce que là, ils ont comme une plateforme. Puis je disais... Là, j'ai soudainement été intéressé de voir ce qui se cachait là-dessus, parce que moi non plus, là, c'est pas quelque chose que je lis ou que je regarde, mais il y en a un dans Le Devoir qui a fait une entrevue, un masculiniste, Louis Racicot, il y a 130 000 abonnés, tout bien sûr des jeunes hommes, puis il prône justement que la femme doit être un pourvoyeur, puis il doit la protéger. Puis là, je me disais, wow, lui, ce gars-là, c'est un, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, 25, 26, ce gars-là, il a des sœurs, probablement, ou une femme dans son entourage, une mère, une grand-mère, qui ont probablement travaillé au Québec pour que, justement, là, à travers, justement, le tissu social, on se sort de ça, puis on prône l'égalité. Puis lui, il dit ça, puis là, en lisant le texte, il arrive un moment à la fin du texte où il dit, mais je dois vous dire que je suis pas misogyne. Parce que d'ailleurs, ma mère a trouvé important que je le dise. Et il y avait quelque chose qui était étrange là-dedans. Malgré tout, malgré tout son discours, et je trouve que ça n'a juste pas de bon sens, ce discours-là, puis je ne reviendrai pas sur cette espèce de Andrew Tate là, que tout le monde connaît malheureusement maintenant, mais tout ça n'a pas de bon sens en 2024. Puis en plus de ça, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que nous autres, comme hommes, comme alliés, ben, il faut être en mesure quand même de dénoncer ça. Puis c'est vraiment ce que je me disais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est dénoncer. S'il y a quelqu'un dans notre entourage qui connaît quelqu'un, de le dire, de le dénoncer. Si nous, on passe à côté de quelqu'un qui va utiliser ce discours-là, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que le dénoncer. Puis là, j'entendais, t'sais, avec le thème « ça gronde », le thème de la Journée internationale du droit des femmes, je me dis, ben c'est sûr que ça va gronder. Ça aucun bon sens d'avoir un discours comme ça, puis d'avoir 130 000 abonnés. Fait que c'était toute une préparation. Merci, Mine, pour ton segment tantôt qui m'a amené à avoir cette réflexion-là. Puis bien content que mes filles ne cliquent pas là-dessus, au moins. Ça en fait trois. Là, faut que je parle à mon gars, lui, à être sûr que lui non plus, parce que c'est... Mais non, j'espère. Mais j'aurai la discussion quand même. OK, go, on part ça. Je suis Éric Gingras, président de la CSQ, et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Et bienvenue à Pierre-Antoine Harvé, conseiller économiste à la CSQ. Merci d'être là.
Ça fait plaisir, merci de nous recevoir.
Mine Nguyen, conseiller économiste aussi. On a apporté, puis vous le voyez pas à l'écran, et c'est sûr que vous l'entendez pas si vous l'écoutez en balado, ça s'entend pas. Mais on a notre même décor, mais grâce à la magie de la télé, on s'en rend pas compte, mais on l'a déplacé à Québec. Parce qu'aujourd'hui, ben, ceux qui l'écoutent plus tard, ben ça se passe aujourd'hui. Puis là, je regarde la date parce que nous sommes bel et bien le 12 mars. Et c'est aujourd'hui, donc, le budget qui a été déposé. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à Québec. Vous étiez en huis clos pour regarder tout ça. Si vous nous regardez en direct sur nos plateformes ou si vous nous regardez un peu plus tard, mais vous le voyez, il y a le gros budget que Pierre-Antoine a, qu'ils ont regardé toute la journée. Ils vont... Et puis aujourd'hui, on va se parler de tout ça. C'est vraiment le premier élément. Personnel des services publics, mais aussi citoyens. Il faut regarder qu'est-ce qui se cache derrière ça, parce que ça a l'air, d'ailleurs, qu'une grande partie du déficit, puis on y reviendra, est la faute des syndicats, bien sûr, avec la négociation, mais on y reviendra, bien sûr, là-dessus. Puis dans la deuxième partie, c'est sûr, Mine va intervenir, il était aussi du huis clos, mais en deuxième partie, on fait un petit spécial, on fait le lien, Journée internationale droit des femmes du 8 mars dernier, économie, finances publiques, est-ce que donc notre système économique est égalitaire? C'est un peu ce qu'on va regarder ensemble dans la deuxième partie. Mais on va y aller d'entrée de jeu tout de suite avec le premier segment, donc le budget du Québec déposé aujourd'hui. Là, on parle juste du déficit, 11 milliards. C'est le chiffre qui est partout. On l'entend. Moi, j'aime ça poser ce genre de questions-là à des économistes et à Pierre-Antoine en particulier. Ben, le budget, situation économique, si tu as un qualificatif à la sortie de ton huis clos, à part est-ce que la bouffe était bonne, oui, ça avait du bon sens, mais au-delà de ce qualificatif-là, par rapport au budget qui est si déficitaire?
Ben, je dirais que c'est un budget qui noircit les choses pour nous préparer soit à l'austérité, soit à des surprises intéressantes avant les élections qui vont venir.
Ah, voilà.
Mais effectivement, un portrait là, assez sombre des finances publiques. Mais je pense qu'il faut le mettre en contexte, là, et je dirais, puis Mine parlera du fait que les perspectives financières sont pas si mauvaises que ça, mais je pense qu'il faut reconnaître, là, quand même, la bonne nouvelle, c'est que cette année, le gouvernement a accepté de faire des déficits plus importants que prévu, beaucoup plus importants que prévu, malgré le ralentissement économique. T'sais, il est quand même confronté à un ralentissement économique plus fort que ce qu'il avait prévu l'année passée. Il est confronté à une augmentation des dépenses en santé, en éducation, dans les ministères, parce que il y a eu une négociation qui s'est bien terminée.
Et il a fait le choix politique, oui, quand même, d'investir dans les services publics.
Et ça, tout au long du budget, là, il s'en vante d'avoir fait le choix politique d'investir dans les conditions de travail, parce que ça va améliorer les services, ça va amener des gens dans les services. Donc ça, il en est tout à fait, là, il s'attribue ce choix-là, okay. Et on en est bien content.
Okay.
Mais donc, il n'y a pas pour ce budget-ci là, d'austérité à proprement parler. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est la première chose. Pas d'austérité.
Okay. Tout de suite. Donc okay. Là, il a repoussé. Donc, il avait prévu le retour à l'équilibre budgétaire en 27. Là, il repousse ça et il ne nous dit pas quand encore. Okay. Il laisse entendre 29. Mais il n'a pas, comme il a changé sa loi sur le retour à l'équilibre budgétaire, il peut jeter avec cette nouvelle loi-là. Il doit refaire un plan. Il ne l'a pas fait cette année. Ce sera l'année prochaine. Donc là, est-ce que ça sera de l'austérité? Est-ce que ça sera des compressions? On verra ça l'année prochaine. Pour l'instant, là, il y a une petite accalmie. Okay. À ce niveau-là.
OK. Sinon, bon, première chose, pas d'austérité, on le voit. Avant d'y aller sur les éléments-là, tu sais, bon, qu'en est-il en éducation, en santé, logement social, etc., moi, je veux juste t'entendre sur ce déficit-là. Est-ce qu'il aurait pu être prévu? Est-ce qu'il aurait pu être plus petit? Est-ce que c'est vrai que la négociation a amené cette pression-là et que le déficit il est en grande partie causé par la négociation du secteur public? Est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Qu'en est-il?
Okay. Je vais laisser Mine répondre sur l'ensemble, peut-être de décortiquer le 11 milliards, là, parce que c'est pas entièrement du déficit. Ouais. Sur l'aspect négociation, là, le gouvernement là, attribue grosso modo là, 3 milliards de dépenses de plus. Sur le 11 milliards, à peu près 3 milliards là, de plus en raison des négociations. moi, je pense qu'il surestime cet élément-là. C'est comme s'il partait de son offre à 10 % pour se rendre au 17,4 qu'on est allé chercher, alors qu'on se doute qu'il en avait caché un petit peu plus que ça dans sa marge de manœuvre. Mais tout ça, on pense là, qu'à la fin de l'année, finalement, ça ne sera pas si important que ça. Je pense qu'il y avait avantage de noircir le tableau pour ce budget-ci, de manière à amener des bonnes nouvelles l'année prochaine.
On se souvient, quelques jours après la mise à jour budgétaire, il annonçait le 12,7% qu'il mettait sur la table. C'est quand même assez fort de café de le dire comme ça.
On peut être plus à 2 milliards d'ajout de masse salariale en raison de la négociation. Mais ça, c'est même pas le tiers du nouveau déficit.
Fait que c'est ça, comme dans le fond, les médias ont vraiment martelé genre, le chiffre du 11 milliards.
Oui, exactement.
Puis on l'entendait vraiment toute la journée dans le huis clos aussi, genre le 11 milliards, le 11 milliards. Mais au final, tu sais, le 11 milliards, donc, c'est pas genre le portrait réel de la dette. Le portrait réel de la dette, il faut enlever, genre, premièrement, le fonds des générations. C'est quand même, les versements au fonds des générations, c'est quand même 2,2 milliards. Puis en plus de ça, tu as aussi genre, un 1,5 milliard qui est sur le fonds des prévisions. Fait que si tu enlèves tout ça ici, c'est comme la réelle dette, c'est 7,3 milliards.
OK.
Si on parle de 7,3 milliards, puis là, si on ramène ça genre, à d'autres actions genre, que ce gouvernement-là a faites par le passé, parlons genre, des baisses d'impôts ici, là-dessus, on pourrait genre, couvrir un autre 4 milliards de plus. Fait que tu sais, dans le fond, ils sont un peu creusés dans leur propre tombe ici. Là. C'est des actions passées genre, qui ont mené genre, aux conséquences qu'il y a là, dans leur, en termes de...
C'est ça, les choix du passé
c'est des choix
qui les rattrapent alors qu'il y avait de l'argent puis qu'on a décidé de le dépenser, encore une fois, avec des choix, mais qui nous amènent là.
C'est des choix genre, qui ont été faits avec un... Excusez le terme, mais c'est un très mauvais timing aussi. C'est des choix qui ont été faits en plein pandémie, pendant une crise économique. Et on sait, Jean-Claude, pendant des crises économiques, c'est pas le temps de couper genre, dans les revenus. Et on essaie d'en avoir plus de revenus, justement, pour pouvoir réinjecter l'argent dans l'économie et puis, genre, la stabiliser. Alors, ils ont déstabilisé l'économie avec leurs choix politiques.
Mais
même,
il y avait des élections.
En effet.
Il ne faut pas oublier qu'il y avait des élections, puis on voulait se faire réélire avec 90 députés. Mais là, ça nous amène là. Et là, on aura des choix à faire. Mais avant d'y aller pour le futur, juste y aller sur les chiffres. Qu'en est-il? Éducation, enseignement supérieur, petite enfance, santé, là, si on prend... Puis après ça, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas de compression? Il y a d'autres ministères, mais globalement, là, les ministères, notamment la CSQ, là, qui ont une incidence sur nos collègues, notamment.
Ouais. Bien, en éducation, là, le gouvernement va annoncer autour de 9 % d'augmentation de budget en éducation. Gros. C'est gros. Mais il y a une petite note en bas de page qui dit, si on enlève... l'argent qu'on a économisé, parce que le budget réel en 2023 a été moins élevé parce qu'il y a eu des économies sur les jours de grève, particulièrement dans le réseau de l'éducation. Si on enlève cet effet-là, on est plus à 6,7 d'augmentation du budget de l'éducation. C'est autour, là, grosso modo, une fois qu'on a couvert les coûts de système, c'est autour de 300 millions de dollars de plus d'investis dans le réseau pour 2024 et 2025. Mais là, il n'y a pas de nouvelles. Une grosse part de ce nouvel investissement-là, c'est en fait ce que le ministre avait annoncé à la rentrée. C'est le plan de rattrapage là, pour le retour en classe suite aux différentes grèves. Fait qu'il y a, cette année, il y a un 150 millions qui va là-dessus. Il y a aussi des mesures d'attraction-rétention qui étaient déjà en place. Donc, ça, c'est pour les retraités qui reviennent. C'est de combler des postes à temps partiel pour les enseignants, pour le personnel de soutien. Et ça, c'est un financement là, qui dure 2 ans. Dans le budget gouvernement, là, il a mis ça du financement pour 2 ans parce qu'il pense et il espère, et on espère aussi que le renouvellement des conventions collectives avec les nouvelles mesures qu'on a négociées
vont aider,
donc ces mesures-là ne seront plus nécessaires. On espère qu'on aura que tout ça va contribuer à réduire la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau. Mais donc, il n'y a pas vraiment de nouvelles mesures importantes. Il y a un 25 millions pour contribuer à la réussite. Donc, et ça, c'est un égrenage de petites mesures. Mais rien vraiment qui va nous permettre là, de changer la nature du réseau à ce niveau-là. L'autre élément important, je pense qu'il faut le souligner, là, il y a quand même il parle de 150 millions pour investir, pour aider la rénovation des écoles, donc accélérer. Et ça, c'est de l'argent là, direct pour faire des travaux dans les écoles dans les prochaines années.
Qui s'ajoute à ce qui existait déjà.
C'est intéressant parce qu'on le sait, nos écoles en ont besoin, puis ça va aller directement dans les travaux. Par contre, faut remettre en contexte là où il y a quand même un déficit d'entretien de 8 milliards de nos écoles au Québec.
Oui, j'ai lu, hein, on était à 61% des écoles qui étaient rangées pas correctes.
C'est ça.
Puis on est rendu à 56%.
Exactement.
C'est une amélioration, ouais. Mais il reste 56%.
Oui, effectivement. Et donc, il y a l'argent pour les rénover immédiatement. Il y a quand même le gouvernement a passé de 3 à 3,4 milliards les investissements prévus pour les écoles dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas toute l'année prochaine. Donc, quand même timide, mais c'est quelque chose d'essentiel et il faudrait qu'ils accélèrent à ce niveau-là.
Santé.
Ben, santé, comme c'est quand même une augmentation de 4,2%. Ça a l'air gros comme ça, 4,2%, mais comme j'aimerais genre mettre un bémol de ce côté-là. Comme le gouvernement dépense de l'argent, comme tout le monde. Puis le gouvernement est un acteur économique aussi. En ce sens-là, si on colle ça par rapport à l'inflation l'année passée, la moyenne annuelle, c'est 4,5%. Mais en fait, genre, comme ça ne devient pas une hausse, ça devient juste un montant très, très stable. Dans le fond, il n'y a pas une baisse, il n'y a pas une hausse, ça reste à peu près égal. Il y a quand même 1,8 milliard de dollars qui ont été promis genre, sur 5 ans, mais moi, j'aime mieux genre, regarder genre, ça année par année. Parce que,
les chiffres sont plus petits, eux, ils aiment moins ça, parce qu'ils aiment mieux dominer. Mais on regarde la vérité.
On regarde la vérité. Genre, qu'est-ce que c'est genre, pour cette année? Fait qu'en santé, genre, comme c'est 360 millions de dollars pour cette année d'investissement de plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce 360 millions-là? C'est comme, ils ont mis beaucoup d'argent de ce côté. Il y a une grosse part de cet argent-là donc, qui s'en va genre, dans le virage numérique du réseau de la santé. Puis il y a une autre grosse...
Ça, c'est pour enlever les fax.
Oui, c'est pour enlever les fax. En fait, je pense qu'ils en ont besoin aussi.
Ouais, ça ne boudera pas notre plaisir.
Et puis, une autre partie genre, de dépenses, l'ajout des dépenses en santé, c'est l'ajout genre, des lits dans les hôpitaux. Puis ça, c'est quand même assez important. Mm-hmm, il manque de lits dans les hôpitaux. On l'a vu pendant la pandémie. Mm-hmm. On l'a vu avant ça. Mm-hmm. On parle constamment du fait genre, qu'il manque de lits. Donc, ils rajoutent des lits de ce côté-là. Ça, on accueille ça comme une bonne nouvelle quand même. Mais ça reste que c'est des petits... Ça a l'air gros, mais ça reste que c'est juste... du maintien, si on pourrait dire.
Avec un peu d'investissement. C'est un peu ce qu'ils font en éducation aussi. C'est un peu le même principe.
Oui.
Et puis, si on ajoute, mettons, la petite enfance, est-ce que enseignement supérieur, est-ce qu'il y a quelque chose de notable?
Enseignement supérieur, non, c'est assez drabe comme élément. Il y a un petit peu d'argent de plus parce qu'il va avoir une révision du financement, du mode de financement des universités. Donc là, ils ont prévu un 25 à 50 millions de plus pour ça, mais on ne sait pas encore comment ça va être utilisé, cet argent-là. Petite enfance,
ben, ils ont continué le programme, genre, l'idée genre, de transformer genre, des garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Nous, à la CSQ, on aurait espéré, Jean-Ken, des garderies non subventionnées soient transformées en CPN. Ce n'est pas le cas. On accueille quand même bien dans l'idée, Jean-Ken, il y a 1000 garderies genre, de plus, mais 1000 garderies non subventionnées, pas, devenues subventionnées genre, de plus, mais ce n'est pas la nouvelle qu'on espérait.
Oui, parce qu'on veut que le vaisseau amiral de la petite enfance soit des CPE, mais ça prend des incitatifs, puis ils ne sont pas au menu, là. C'est un peu ça.
C'est ça. Il faudrait que le gouvernement rachète des permis. Ou des installations pour les convertir. Et ça, il faut qu'il rajoute de l'argent. Et il ne l'a pas fait. Donc, une déception à ce niveau-là.
Si j'ajoute avec ça, là, on était sur les ministères, les différents portefeuilles. Mais là, si on y va avec des éléments de la société, des éléments sociaux. Ouais. Logement social, transition juste.
deux grosses déceptions. Deux gros absents. Du budget, et ça, la déception était... S'il y a un élément sur lequel les gens n'avaient aucune hésitation, c'est ces deux éléments-là. Logement social, là, il y a des mesures, il y a quand même un peu d'argent pour de l'aide au logement, mais c'est individuel. Donc, c'est soit des allocations logement pour t'aider à payer ton loyer qui est trop cher pour les personnes les plus pauvres. Il y a quand même un 85 millions là, qui va servir à rénover les logements sociaux existants. Mais rappelons là, qu'on a un déficit autour de 40 000 logements sociaux en ce moment au Québec. Et le gouvernement a annoncé aucune nouvelle construction à ce budget-ci. Il s'appuie là, sur les 8 000 qu'il avait annoncé cet automne.
C'est quand même peu par rapport à tout ce qui manque. Là.
C'est ça. C'est peu. C'est en grande partie financé par les transferts fédéraux. Et là, la plupart des groupes, là, puis on s'attendait à la CSQ d'avoir un plan sur plusieurs années, donc un engagement financier à ouvrir des logements sociaux et on vise à peu près une cinquantaine. Et c'est important des logements sociaux et non pas du logement abordable. C'est bien le logement abordable,
la même chose.
Mais c'est pas du tout la même chose. Logement abordable est encore sur le marché et après 4-5 ans, on ne sait plus s'ils sont toujours abordables parce que les loyers peuvent augmenter. Donc à ce niveau-là, pas de bonnes nouvelles. Un 7 millions pour le logement étudiant. Donc, on sait qu'on a des problèmes à ce niveau-là, mais pas de plan d'action en habitation concret et durable. Environnement, on le sait, là, un des éléments importants qu'il faut dans la transition, c'est au niveau du transport. Et il faut encourager le transport collectif. Et ça, là-dessus, déception totale, pas de nouveaux projets. Pas d'argent neuf, pas de nouveaux projets, Et la part des investissements, c'est toujours, là, il y en a toujours plus pour le réseau routier que pour le transport en commun. Là, on est à un ratio, là, je pense qu'on est à 47% pour le transport, 43% pour le transport en commun, 57% pour le réseau routier. Donc, à ce niveau-là, c'est une déception importante.
Moi, je rajouterais, genre, pour la lutte au changement climatique, environnement, c'est 128 millions de dollars. C'est des peanuts. On s'entend, c'est des peanuts. Et puis, genre, la majorité de cet argent-là, genre, c'est des crédits pour les autos électriques. Alors, encore une fois, genre, comme c'est le programme Rouler vert, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le fond? Genre, c'est individualiser dans la lutte au changement climatique. Achetez-vous une voiture électrique, et puis vous allez continuer genre, à vivre comme ça. Et puis, rien pour le transport en commun, comme disait Pierre-Antoine. Alors, ça dénote quand même une certaine vision de la transition juste, de la transition énergétique pour ce gouvernement-là.
Ça prend des voitures pour mettre sur le troisième lien.
Ben oui, c'est sûr.
Donc, on ne peut pas faire ça. Bon, des éléments plus négatifs, mais éléments positifs.
Ben, pour les aînés.
Ah, les aînés. Puis c'est bon que tu en parles parce que on avait, dernier balado, les collègues de l'AREC qui nous parlaient de la réalité traitement à domicile, etc. Est-ce qu'il y a de l'argent pour les aînés? Est-ce qu'il y a quelque chose pour s'occuper de nos aînés?
Ben, deux bonnes nouvelles claires. Là. D'une part, la réduction. En fait, ils enlèvent. Il y avait une réduction de la rente pour les gens qui étaient en invalidité, qui prenaient leur retraite à la RRQ. Avant 65 ans, mais pour des raisons d'invalidité. C'était donc pas un choix. Et ces gens-là voyaient leur RRQ réduit après 65 ans, comme s'ils avaient choisi de prendre leur retraite. Donc ça, le gouvernement va éliminer ça dans les prochaines
très bonne
années.
Nouvelle.
Là, on parle de quasiment 4 000 de plus potentiel pour les personnes qui sont en invalidité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est quand même en santé, des investissements importants pour le maintien à domicile. Donc, il y a quand même...
Justement, on en parlait
Je me trompe pas, là, 100 quelques millions.
Oui, c'est 150 millions.
150 millions pour favoriser le maintien à domicile. Et il y a de l'argent aussi pour les différents modes d'hébergement pour les personnes aînées qui sont, on le sait, en crise en ce moment. Dernière petite élément.
C'est sûr que ça ne règle pas tout, 150 millions en santé, là, parce que les besoins sont grands pour les personnes âgées, nos aînés. Par contre, c'est quand même un pas dans la bonne direction d'un gouvernement qui semblait pas s'en aller là beaucoup. Là. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant.
Non, le gouvernement prend acte là, de la transition démographique puis agit à ce niveau-là. Donc ça, oui, c'est une des bonnes nouvelles de ce budget-là.
Merci. Portrait situation économique pour le futur. Là, c'est l'enjeu. Ça a été dit à plusieurs reprises. 11 milliards, ça n'a pas de bon sens. Tu l'as dit d'entrée de jeu. Le plan devrait nous être annoncé dans un an. Comme par hasard, à grosso modo là, deux ans des élections, un peu moins, parce qu'ils commencent leur campagne quasiment un an et demi avant. Donc, Est-ce que ça prête vraiment à nous annoncer de l'austérité? De quoi ça a l'air? Est-ce que la reprise économique va aider? Est-ce qu'il y a vraiment un déficit structurel? Qu'est-ce qu'on peut regarder avec le futur? Comment est-ce que la situation économique au Québec? Ils sont tous gentils.
On est gentils.
Ceux qui nous écoutent, il y a eu un petit blanc parce que les deux disaient vas-y, vas-y.
on voulait éviter la question difficile.
Ouais, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et y aura-t-il ou non austérité ou optimisation, comme j'entendais le ministre Girard dire?
Ben, déjà, le gouvernement a prévu là, d'aller chercher autour de 2 milliards en optimisant ses dépenses. Et ça, il y a des fois où il y a des années où on avait peur de cette optimisation-là parce qu'elle visait les services.
Toujours.
Les programmes. Dans ce cas-ci, ce qui est plus encourageant, c'est qu'elle vise surtout les crédits. En fait, c'est les dépenses fiscales, donc les retours d'impôts qu'on donne particulièrement aux entreprises. Là. Le gouvernement du Québec est extrêmement généreux en subventions et en crédits d'impôt aux entreprises. Écoutez, même le pas très à gauche Institut économique de Montréal dénonçait le trop grande subvention aux entreprises. Le gouvernement là, veut réduire ça. C'est une partie de son plan. Donc ça, c'est une bonne chose. Un petit peu de lutte à l'optimisation fiscale, là, donc les paradis fiscaux. Mais pour l'instant, son plan est surtout au niveau de ses revenus, donc de réduire ses retours d'impôts aux entreprises. Mais c'est sûr qu'il dit à long terme, il faut que mes dépenses augmentent pas plus vite que mes revenus.
Donc,
et là, pour l'instant, il y a un écart. Alors, est-ce qu'il. Et on craint que le gouvernement va privilégier un ralentissement des dépenses et non pas une augmentation
des
revenus.
Mais ça va prendre une augmentation des revenus. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Là.
En effet, il y a un journaliste aujourd'hui, pendant le huis clos, genre, qui a demandé au ministre « Est-ce que vous pensez genre, à augmenter genre, les impôts? » Et puis, ben, là, il a répondu « C'est pas le moment d'augmenter les impôts, genre, comme j'aurais l'air un peu nono, puisque genre, je viens juste
de descendre.
De descendre. Ah, oui. » Mais en même temps, il y avait un sous-entendu qui disait « Peut-être plus tard, genre, je vais penser à augmenter les impôts. » Fait que dans le fond, c'est dur à dire, comme si on n'est pas dans la tête du ministre, mais genre, comme on a l'impression genre, qu'il y a des avenues genre possibles quand même de ce côté-là.
Mais ça serait quand même, excuse-moi, vas-y.
Mais c'est juste pour dire, effectivement, un des mythes là, qu'il va falloir démonter dans les prochaines années, c'est le fait que les dépenses publiques prennent trop de place dans l'économie.
Non, mais ça, c'est
et ça, c'est absurde dans un sens où c'est partout au Québec, on a un système de santé qui est en grande partie public. Et comme partout dans le monde, ce système-là, ben, il coûte de plus en plus cher. Donc, il va falloir accepter de payer une plus grande part de notre économie dans les services publics, si on veut maintenir les services de santé publics. Même chose, on a ajouté des services, on a le réseau de la petite enfance.
Mmh.
Alors, cette obsession-là de réduire la taille de l'État, va falloir qu'on la renverse et qu'on comprenne qu'on est peut-être mieux de payer un petit peu plus d'impôts, mais payer un peu moins de notre poche.
Ouais, ben, d'autant plus que lorsqu'ils font des baisses d'impôts, il y a beaucoup de personnes touchées par ça, qui n'en ont pas besoin, mais qui en ont beaucoup moins besoin que d'autres. C'est ce qu'on a vu dans la récente baisse d'impôts. Là. Donc, ça en fait partie. Et il y a le fait aussi que les gens, la population, tient à ces services publics. C'est ça qu'ils nous ont démontré. Là. Si on a réussi à mener la bataille sur les conventions collectives à ce point-là, c'est que les demandes étaient considérées justes par la population. Puis oui, ils ont voulu investir. Le gouvernement... Ben, ils ont un petit peu été obligés avec ce qui se passait dans la société. Mais en même temps, là, c'est sûr qu'ils essaient de répondre puis nous faire porter un peu l'odieux puis dire ben, il y a des déficits. Donc, mais quand même, il a quand même dit que c'est un choix politique qu'il faisait. L'affaire qu'il va falloir être vigilant, là, c'est que là, ils vont spinner beaucoup là-dessus sur ils ont fait un investissement. Mais là, ils viennent pas tout régler là, en éducation et en santé. Là. Puis ça, il y a ce bout-là aussi qu'il va falloir placer. Là. De dire qu'ils ont investi, oui. De dire que ça aide, oui. De dire qu'ils ont amélioré les conditions de travail en partie, amélioré les salaires. C'est vrai, certains groupes moins touchés que d'autres, mais là, on vient pas de régler les services publics au Québec. Là.
Non, on vient d'effectuer, en fait, on vient d'effectuer une partie du rattrapage qu'on demande.
Une impulsion.
De régler une partie du rattrapage qu'on demandait dans nos conditions de travail, puis c'est depuis des décennies. Donc, effectivement, là, il y a une impulsion sur les dépenses grâce à cette négociation-là, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et oui, il va falloir continuer à se défendre des dépenses qui sont cohérentes avec les services qu'on veut s'offrir. Puis oui, ben, convaincre aussi la population qu'il faut payer, qu'on est mieux de payer via les impôts que de payer via les tarifs ou les assurances ou les services privés qu'on paye directement de notre poche.
Est-ce que c'est le mot de la fin ou quelque chose à ajouter sur le budget là, avant qu'on passe à l'autre segment? Là? C'est sûr que sur nos plateformes, etc., on va décortiquer tout ça dans les prochaines heures, prochains jours. Puis on aura bien sûr fait des entrevues, mais on sera en mesure d'ajouter des choses aux besoins. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de significatif à mentionner? Ça va?
Non, ça va.
Ça va? Bien. Vous avez une belle journée?
Longue.
Comment ça s'intitule? Il donne toujours un thème au budget cette année, c'est?
Priorité santé et éducation, si je me souviens bien.
Je pense qu'ils préparent leur spin pour... ouais, je pense qu'ils vont nous le ramener, ça. OK, mm-hmm. OK, on comprend ça. On comprend ça. Excellent. Ah, voilà. C'est parce que je viens juste de recevoir le tweet... Ou non, c'est plus un tweet, c'est un X maintenant.
Un X
du ministre de l'Éducation qui est fier de dire qu'on investit massivement en éducation comme jamais dans l'histoire du Québec. 22,3 milliards en 2024-2025. Mais en même temps, on est plus que jamais au Québec avec 9 millions de Québécois que jamais historiquement auparavant. Ça, des fois, quand tu compares des chiffres de même, là, hein, c'est sûr que quand on était 7 millions, ben c'est normal que le budget était plus petit. Mm-hmm. C'est quand même. Si on avait le budget comme quand on était 7 millions, là, on aurait un méchant problème.
Ouais. Et c'est très long parce que le ministre des Finances s'est fait dire « Est-ce que c'est le plus gros déficit de l'histoire du Québec? » Et il a dit « Non, pas si on le regarde en proportion du PIB. »
Alors, c'est ce qu'on appelle une question de perspective.
C'est cela.
OK, hey, merci beaucoup. Mais on continue, on reste dans l'économie quand même. Là, puis Pierre-Antoine va pouvoir se joindre quand même. Au dernier conseil général, alors qu'on s'en allait vers le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, on a fait une présentation qu'on voulait ramener là parce que justement, bon, ça vient d'être passé, puis là, on a parlé d'économie beaucoup. Alors, j'ai demandé à Mine de le faire un petit bout, à savoir l'économie au Québec, est-ce qu'elle est égalitaire?
Bien, si elle est égalitaire entre les hommes et les femmes, la réponse courte, c'est non, elle l'est vraiment pas.
J'espérais un oui, mais clairement non. Alors
non, en effet, c'est non parce que ben, quand on regarde les chiffres, quand même, il y a une plus grosse proportion de femmes qui sont genre des travailleuses pauvres qu'il y a de travailleurs pauvres. Il y a plus de femmes qui sont en situation genre de faible revenu, tout court. Okay. Et puis quand on regarde tout ça, genre, juste sur le marché, genre, tout court, des salaires de marché. C'est quand même intéressant. Quand on regarde les salaires de marché...
C'est quoi ça, des salaires de marché?
Salaire de marché, genre, c'est un salaire genre, qui est équilibré genre, par l'offre et la demande.
OK, je comprends.
Comme ça, tout simplement. Fait que c'est les salaires de marché des gradués genre, des techniques de cégep de 10 mois après leur graduation, hommes et femmes. Peu importe si c'est des programmes à prédominance féminine ou masculine, on se rend compte que les hommes, dans un cas ou dans un autre, gagnent plus que les femmes. Si on regarde, si on sépare genre, les programmes qui sont à prédominance féminine ou prédominance masculine, on se rend compte que non, les emplois non, à prédominance féminine avaient tendance à être payés moins. Fait que, dans tous les cas, on se rend compte genre, que si on laisse juste le marché non, aller à lui-même, ben, les inégalités non, vont juste augmenter. Comme c'est...
La main invisible du marché ne va pas réussir à trouver cet équilibre-là.
La main invisible du marché, elle va dans le sens des hommes et certainement pas dans le sens des femmes. Est biaisée, c'est ce que je suis en train de dire.
Effectivement. Donc, peut-être des exemples de ce qui va pas bien. Tu m'as parlé du fait qu'on regarde certaines techniques. Moi, j'ai en tête mes collègues de la FIPEC, la Fédération des intervenants de petite enfance, qui justement disaient, ben avec ce diplôme-là, c'était à ce moment-là, lorsqu'on menait leur bataille sur l'amélioration des salaires, c'était le diplôme que tu sortais puis tu avais le plus bas salaire. Est-ce que sans dire celui-là en tant que tel, mais l'exemple que tu donnes, c'est de dire quand on regarde tous les diplômes, puis on fait une moyenne.
On fait une moyenne pondérée, et tout. Et oui, comme c'est effectivement comme un diplôme comme par exemple technique informatique.
Okay.
Technique informatique, j'en sais principalement genre, des hommes qui, ben, mm-hmm. des jeunes hommes genre, qui vont s'inscrire de ce côté-là. Lorsqu'ils sortent de là, ils ont tendance à avoir un bon 10, 15, 20 % de plus que genre, les femmes qui vont en technique pour rentrer en CPE genre, par la suite. Puis c'est des écarts de même genre, qu'on se rend compte. On se rend compte que ces écarts-là sont systématiques. Comme si on fait genre, la moyenne pondérée genre, de tous les programmes qui sont vraiment plus à prédominance féminine comparé à ceux qui sont à prédominance masculine, c'est clair.
Il n'y a pas photo. OK, ça, c'est le négatif. On a des filles, on a des enfants, on a des jeunes qui grandissent comme ça. Est-ce qu'on peut dire quand même, en espérant qu'ils n'auront pas à toujours refaire les mêmes batailles, est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits? Je regarde avec tout le travail qui est fait, notamment la CSQ, on représente 80 % de femmes, on a un comité d'action féministe. Est-ce qu'on peut quand même dire positif? J'essaie de trouver du positif. Est-ce que quand même il y a du progrès?
Ben, moi, la manière que je le vois, comme quand on regarde les chiffres, quand même, les variations, on se rend compte que les luttes, ça paye. Les années 90, vers la fin des années 90, le salaire moyen genre, des femmes, c'était à 80 % de celui genre, d'un homme. Donc, pour chaque dollar qu'un homme gagnait, une femme gagnait 87.
OK.
OK. Fait qu'il y avait comme un écart de ce côté-là. Là, on est rendu à 90 %. Donc, 97 cents contre 1 dollar. Pourquoi? Ça s'explique quand même assez bien. Au niveau du salaire, ben, c'est la loi genre, sur l'équité salariale. La loi sur l'équité salariale, c'est quelque chose genre, qui a été genre, demandé genre, beaucoup, j'en parle bien sûr, dans le mouvement des femmes, mais aussi genre, par les mouvements syndicaux, dont la CSQ. Et puis, à partir du moment où la loi genre, sur l'équité salariale a été adoptée, on voit genre, quand même l'écart rétrécir en termes de salaire. Puis, c'est pas tout. En termes de politique, il y a eu genre, l'arrivée genre, des CPE à la fin des années 90. Les CPE, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les femmes ont commencé à plus facilement retourner genre, sur le marché du travail après avoir eu un enfant. Qu'est-ce que ça fait, ça? Comme là, je parlais tantôt genre, des salaires, on peut aussi maintenant parler des revenus. On se rend compte que l'écart entre les revenus entre les hommes et les femmes a commencé à descendre aussi à partir genre, des années, la fin des années 90. Donc, oui, comme côté genre, des luttes politiques, des luttes sociales, tant par les syndicats que les mouvements des femmes, ça a eu un impact genre, sur la réduction des inégalités, vraiment beaucoup.
Donc, si on se projette à ce moment-là vers l'avenir, parce que là, tu me dis, il y a eu une progression, il y a des luttes qui ont été menées. Maintenant, regardons vers l'avenir. Est-ce que, à quoi ça ressemblerait une économie égalitaire? Comment on peut se projeter dans l'avenir en se disant comment est-ce qu'on peut aider aussi comme organisation syndicale?
Bien, il y a plusieurs choses à faire. Il faut se rendre compte, on parlait de la main invisible tantôt, il faut se rendre compte que dans la main invisible du marché, les règles du marché, comme la loi genre, de l'offre et la demande, comme que c'est géré genre, avec nos institutions en ce moment, ça va dans le sens des hommes. Parce que genre, les règles de l'économie ont été genre, créées genre, comme par des hommes pour des hommes, initialement. Donc, des luttes politiques, ça va payer. Et puis, on se rend compte que notre fiscalité aussi, elle va quand même plus dans le sens des hommes que des femmes. Fait que dans une économie genre plus égalitaire, on aurait une fiscalité qui va plus dans le sens des femmes, qui va tirer genre les choses plus dans leur sens. On aurait des mesures de relance économique qui vont plus dans le sens des femmes. Un exemple que je peux dire, c'est lorsqu'on est en crise économique. Lorsqu'il y a une crise économique, plus souvent que pas, les coupures vont se faire dans des domaines dans lequel il y a plus une plus grosse prédominance féminine.
Le fameux prendre soin, bien souvent.
Oui, on coupe dans le care davantage que dans la construction, par exemple. Fait que ça, c'est quelque chose qui est clair. Et puis, lorsqu'on va mettre de l'argent pour relancer l'économie, on va mettre de l'argent, encore une fois, là, je caricaturise, mais comme c'est quand même ça, on va mettre plus d'argent pour pour la construction ouais. que pour les enseignantes, admettons.
Ouais, ouais.
Fait que ça, c'est le genre de règles économiques, comme genre de paradigme économique qu'il faut mettre de côté et puis genre, repenser dans la chose. Parce qu'il y a une culture derrière la chose qu'il va falloir remettre, remettre en question. Et puis,
peut-être avec plus de politiciennes, ça va aider.
Plus de politiciennes, ça aiderait, en effet. Et puis,
Je dis pas des politiciennes juste pour arriver à la zone d'équilibre, là, mais des politiciennes qui ont des portefeuilles importants, puis qu'ils ont l'oreille du premier ministre, parce que là, présentement, c'est pas tout à fait le cas. Mais bon, ça, c'est plus éditorial.
Oui.
Travail invisible, je veux juste terminer là-dessus, parce que il y a un aspect du travail au féminin qui n'est pas reconnu parce qu'on dit que c'est du travail invisible. Peut-être t'entendre un petit peu là-dessus.
Oui, bien, le travail invisible, c'est quand même assez important. Le travail invisible, c'est quoi? Le travail invisible, grosso modo, genre, c'est toutes les tâches qui sont accomplies dans une journée, mais qui ne sont pas comptabilisées dans le PIB. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est genre le soin, genre, admettons, je prends soin de mes parents qui sont plus vieux. Je prends soin genre, de mes enfants. Faire le ménage, faire l'épicerie. C'est toutes des choses qui sont nécessaires dans la vie économique. Genre de, peu importe, genre comme si genre l'unité économique, genre c'est une famille ou genre si c'est l'ensemble de l'économie. On se rend compte que tout ce travail de care-là, tout ce travail genre, qui n'est pas comptabilisé dans le PIB, si on devait genre, le mettre dans le PIB, si on devait le comptabiliser, Statistique Canada genre, estime que ça compterait genre, pour 30 % de notre PIB. Hmm. C'est énorme. C'est comme si on le monétisait. Puis là, on ne s'est pas monétisé en ce moment. Puis là, on se rend compte aussi, quand on regarde ça, il y a des sondages pour savoir genre, comment est-ce que genre, les gens genre, utilisent leur temps dans une journée. Et on se rend compte que, bon, de un, les femmes ont tendance à plus prendre soin des enfants. Les femmes ont tendance à plus prendre soin des aînés.
Mm-hmm.
Les femmes ont tendance à plus faire de ménage. Et de manière logique, ça veut dire aussi, les femmes ont tendance à moins travailler dans une journée, travailler de manière rémunérée. Et puis, aussi, les femmes ont tendance aussi à avoir moins de temps de loisirs que les hommes. Alors, le corollaire de tout ça, c'est qui, genre, qui a tendance à faire le travail invisible? C'est les femmes.
Mmh.
Ça, c'est...
Et pourtant, c'est paradoxal parce que le gouvernement va souvent se fier sur les aidants naturels pour pallier un manque d'investissement ou pallier justement le fait qu'ils se retirent de certains endroits. Donc, ils sont perdants aux deux places.
Ouais.
Ils ne peuvent pas travailler et donc nuisent un peu à comment ils sont capables d'avancer. Mais le gouvernement se fie là-dessus aussi. D'ailleurs, comme ça, qu'il se fie aussi bien souvent dans le secteur public pour moins rémunérer en se disant ils vont faire du travail bénévolement. Puis ça, on le voit chez les profs, le personnel de soutien, nos collègues professionnels aussi partout parce que c'est majoritairement féminin. Merci, Mine. Tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, je sais pas si t'allais faire la blague, là.
Ben, vas-y donc.
Mais parce que quand même, dans les bonnes nouvelles, au Québec, quand même, on a, au niveau de la participation des femmes au marché du travail, on est une des places en Amérique du Nord, c'est sûr, mais même si on se compare à l'Europe du Nord, là, qui sont toujours les pays qu'on regarde, on est des endroits où les femmes participent le plus au marché du travail. C'est grâce au CPE, grâce au service de garde subventionné. C'est grâce à l'éducation, quand même, qu'on leur a permis d'aller jusque-là. Fait que les 130 000 abonnés de monsieur, là, ils vont avoir de la misère à se trouver une femme à la maison.
Mais c'est ça qui est paradoxal. Tu vois, c'est on a commencé en jasant de tout ça, en jasant, puis là, après ça, on termine là-dessus, mais on a des gens qui veulent retourner en arrière. Et effectivement, j'aurais pu le faire, j'ai pas été assez vite, mais c'est quand même, ça boucle la boucle, comment, justement... ça n'a juste pas de bon sens d'avoir 130 000 personnes qui suivent ça, alors que justement, nous autres, ce qu'on tente de faire, c'est d'avoir cette égalité-là. Ben, on va faire fi de ces gens-là. On va espérer justement qu'ils, après ça, vont suivre davantage un balado comme le nôtre. Puis d'ailleurs, merci, Mine, de ton bout sur l'économie versus les inégalités, notamment avec les femmes. Parce que, et je tiens à le dire, je tiens à le souligner, ce sera le 50e, le 21 mars, ce sera le 50e du comité d'action féministe de la CSQ, déjà 50 ans. Malheureusement, en lutte pour un autre 50, puis je le dis comme ça, parce que avec justement des reculs comme on a discuté au début du balado. Merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est pas votre première présence au balado. Toujours intéressant. En période de budget, comme à d'autres moments, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le tour. Toujours disponible sur l'ensemble de nos plateformes. N'hésitez pas, continuez à nous écrire, continuez à nous proposer des sujets. Puis on a des belles surprises pour vous à venir. On va continuer à faire ça. Très intéressant. Merci à nos invités. Merci à ceux qui nous écoutent. Et on se revoit très bientôt le mois prochain.